Le collège de Kuta.
Des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.
Bonjour chers auditeurs, auditrices. Je vais vous présenter en compagnie de Lily, notre nouvelle émission de l'année.
Vous êtes sur Onde de choc, la radio du collège de Kuta, et nous allons vous parler de la distribution des sujets de cette émission.
Pour commencer, nous parlerons de science et d'histoire. Émile répondra à la problématique.
Peut-on voyager dans le temps ?
Après une petite pause musicale Jurassic Park, Yem nous fera découvrir le prédateur X, un reptile des mers de la préhistoire.
Nous enchaînerons sur le thème de la littérature. Suzanne nous proposera de nous raconter son expérience cinématographique avec un film culte Pulp Fiction. Une musique de ce film viendra enchanter sa chronique. Ensuite, nos trois nouvelles recrues, Anaïs, Ambre et Léna, nous présenteront la petite librairie à Sommières.
Après une petite pause musicale, Paolo nous éclaircira sur l'actualité et nous parlant du harcèlement et du suicide de Petit Lucas.
Pour finir dans le thème du sport, Athénaïs nous présentera et nous parlera de sa passion du handball et de son expérience, et la gardienne de France, Cléopâtre Darleux. On commence tout de suite, Émile vous répondra, peut-on voyager dans le temps ? C'est à toi.
Peut-on voyager dans le temps ? Bonjour, je m'appelle Émile et je suis astrophysicien. Il ne faut surtout pas perdre espoir, voyager dans le temps n'est pas une totale imagination. Pour vous le prouver, nous savons le faire un peu. Pour comprendre, il faut revenir en 1905, quand Albert Einstein, alors il n'a que 26 ans, Einstein découvre la théorie de la relativité restreinte. Imaginons, il y aurait deux pendules, et dans ces pendules, il y aurait deux cadrans. Une serait sur la Terre et une dans l'espace. Et dans les cadrans, il y a deux flèches qui tombent et qui redescendent, qui sont synchronisées en même temps, et celle qui est dans l'espace est tirée par une fusée. La flèche qui est dans le cadran sera déviée et sera plus lente. Et le temps qui sera sur Terre sera en retard, et les occupants de la fusée seront en avance par rapport au temps qu'il y a sur Terre. Mais malheureusement, il faudrait voyager à 99,99% de la lumière, et la vitesse de la lumière est de 300 000 km la seconde, alors que l'engin le plus rapide va à 148 km la seconde. On est donc très loin de la vitesse de la lumière. Et vu la quantité d'énergie qu'il faudra, autant dire que ce n'est pas pour demain. Mais basons-nous sur la station de l'ISS, qui va à la vitesse de 7 km la seconde. Les occupants de la station spatiale internationale voyagent dans un futur. Basons-nous sur la relativité générale théorisée encore par Albert Einstein. Cette théorie nous dit que plus un objet est attractif, plus le temps passera moins vite, car selon Einstein, l'espace et le temps sont liés entre eux. Donc plus un objet est massif, plus le temps sera long, car plus il est gros, plus il déformera l'espace, et donc il déformera le temps. On parle de la gravité, ce qui veut dire que quand on lâche un objet, il tombera. Donc pour voyager dans le temps, il faudrait essayer de voyager avec des trous noirs, car la gravité des trous noirs est tellement forte que même la lumière n'en sort pas. Et donc il faudrait tourner autour d'un trou noir avec une fusée, et quand on sera de retour sur Terre, on aura des années de retard avec la Terre. Mais il y a deux problèmes. De 1, le centre de la galaxie a 26 000 années-lumière. Et second problème, quand on tourne autour d'un trou noir, l'attraction du trou noir est tellement forte qu'on risque d'être victime de la spaghettification. Le corps de l'occupant risque d'être tiré dû à l'attraction du trou, ce qui va causer la mort. Mais pour atteindre un trou noir, il faut revenir dans les années 50, quand une nouvelle fois Albert Einstein avec un autre scientifique Rosen ont découvert le pont Einstein-Rosen. C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait un point A et un point B dans un espace, disons Mars et la Terre. Ce serait long de faire un trajet comme ça, mais supposons que l'espace soit une feuille pliable et on la plie jusqu'à ce que les deux points se rapprochent, ce qui s'appelle voyager dans un espace tridimensionnel, car on ne voyage que dans l'espace et l'espace a trois dimensions. Maintenant, allons un peu chercher dans les trous noirs. On pense que dans les trous noirs, il y a des trous de ver. C'est grâce à ça qu'on pourrait faire des allers-retours dans le futur. Des scientifiques pensent qu'ils existent. Et s'ils existent, ils sont 0,2 milliards de trillions de trillions de milliards de plus petits que nous. En tout, 25 zéros plus petits. 25 zéros après la virgule. Plus petits que nous, il faudrait de l'énergie négative pour l'agrandir. Et on pourrait faire des allers-retours. Mais il y a un problème. Imaginons qu'on ait un bâton et on le casse. Et qu'on remonte le temps de 1 minute avant qu'on casse le bâton. On aura les bouts de bois cassés. Mais dans le passé, on n'a pas cassé le bâton. Et on se retrouve avec les bouts de bâton plus grands. Ça peut être difficile à comprendre. Donc je vous invite à regarder la vidéo du journal Le Monde. Peut-on voyager dans le temps ? Pour revenir à cela, cela fut découvert par Stephen Hawking, célèbre physicien anglais, qui dit que si on passe dans un trou de ver, on finira par toute évidence de faire des allers-retours par le trou de ver. Car quand on passe dans un trou de ver et qu'on revient, notre but du passé était d'aller dans le trou de ver. C'était de rentrer et on reviendra, etc. Et le passage crée aussi de l'énergie négative. Et au bout d'un moment, le trou de ver sera surchargé en énergie négative, qu'il explosera. Il se refermera sur lui-même. Mais par contre, on est sûr qu'on ne pourra pas remonter le temps. On est sûr car on ne peut pas voyager dans une époque où la machine n'a pas été inventée. Et aussi une époque où celui qui a voyagé n'a jamais pu naître. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, mais sachez que plus on regarde loin, plus on voit le passé. Et puisque le temps est plus lent, et grâce à ça, on a pu voir le Big Bang, et aussi à bientôt.
Merci de nous avoir éclairci sur ce sujet scientifique et complexe. Après la pause musicale, Guillaume nous fait découvrir le Prédateur X.
Vous avez écouté Jurassic Park. À présent, c'est à toi, Guillaume.
Encore une fois, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est mon troisième voyage dans le temps depuis mon entrée dans l'émission. J'en ai fait deux l'année dernière. Mais cette fois-ci, c'est pour vous parler non pas d'un dinosaure, mais d'un reptile marin de plus de 15 mètres de long et 45 tonnes vivant pendant le Jurassique. Ce prédateur littéralement impressionnant, souvent comparé au Mosasaurus, s'appelle le Predator X ou Pliosaurus Vinckei. En tout cas, m'y voici. Je suis actuellement en plongée dans les eaux du Jurassique supérieur. Et j'ai de la chance, car il y en a déjà un tout près. Il nage tellement vite que si je n'avais pas pris de scooter des mers, silencieux, il m'aurait distancé depuis longtemps. Je ne pourrais pas vous le décrire en détail, car il est hors de question que je m'approche de lui à moins de 30 mètres. Mais pour l'instant, je peux vous dire que l'examen de son crâne semble indiquer que le Predator X repérait ses proies à l'odeur. Un organe sensitif analyse l'eau qui passe par ses narines internes et le guide vers sa cible. D'ailleurs, là, il a brusquement changé de direction et nage encore plus vite. Il vient de sentir, je ne sais pas encore quel proie. Il les a déjà trouvés. Ce sont des Chimerosaurus, des plésiosaures, qui ont tout de suite repéré le Predator X et s'enfuient à toute vitesse. Mais à raison de 5 mètres par seconde, le Predator X se déplace légèrement plus vite que les Chimerosaurus. Ces derniers n'ont alors qu'une seule solution pour l'échapper, se réfugier dans les hauts fonds. La taille gigantesque du Predator X ne représentera alors plus une force, mais un handicap. Et malheureusement pour lui, ils y sont arrivés. Sauf un, inconscient du danger, qui est en train de chasser seul, près de la surface. Il n'est pas plus risqué, car de là où il est, le Predator X peut déployer toute sa puissance sur lui. Il fonce droit dessus, le Chimerosaurus esquivé au dernier moment, mais est quand même sérieusement secoué. Bien qu'étourdi et blessé, il peut encore riposter. Malgré le fait qu'il chasse de petites proies, la mâchoire du Chimerosaurus est dangereuse et même le Predator X doit s'en méfier. Le Chimerosaurus repère le Predator X en train de nager à toute vitesse dans sa direction et prend la fuite. Le Predator X le rattrape et lui attrape la nageoire arrière droite. La transperce de ses dents, la relâche suite à une contre-attaque du Chimerosaurus et replonge. À présent, avec un membre inactif d'où son sang s'échappe, le Chimerosaurus n'a plus qu'une seule solution, se réfugier à son tour dans les hauts fonds. Mais le Predator X l'attaque à nouveau, en remontant à toute vitesse, attrape le Chimerosaurus par le cou, tout en continuant de monter et bondir de l'eau, avec le Chimerosaurus toujours entre les dents. Puis replonge, agite le Chimerosaurus et lui arrache le cou avant de l'avaler. Puis attrape ce qui reste de sa proie avec sa mâchoire. La mâchoire du Predator X pourrait tordre de l'acier. Sa morsure est 4 fois plus puissante que celle du Tyrannosaure. Elle traverse les muscles, broie les os et achève de démantibuler le corps. Bon, maintenant je peux vous dire ce que j'allais vous dire avant le début de la chasse du Predator X. Ah, il possède un cou court, une grande gueule, 4 membres massifs en forme de pagaie, un corps conçu pour être rapide malgré sa grande taille et une queue plutôt courte. Alors tout à l'heure j'ai dit qu'il était souvent comparé au Mosasaur. Et là, à mon avis, vous vous demandez qui, entre le Mosasaur et le Predator X, est le plus fort. On va pas se cacher que j'en ai aucune idée, en fait le plus probable c'est qu'il n'y en ait pas vraiment un qui soit plus fort que l'autre. Et puis de toute façon ils ne peuvent pas se battre puisqu'il y en a un qui vit au Jurassique supérieur, le Predator X, et l'autre au Crétacé supérieur, le Mosasaur. Bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine.
Merci Guillaume pour cette chronique comme toujours très intéressante.
Dans le thème de la littérature, Suzanne nous parle maintenant de Pulp Fiction.
Moi en tout cas j'ai adoré. Et toi Suzanne ?
Je te dis ça tout de suite Lily, mais tout d'abord, qu'est-ce que Pulp Fiction ? C'est un film réalisé par Quentin Tarantino, sorti en 1994. Il a aussi réalisé Once Upon a Time in Hollywood, dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Ce film est, a-t-il annoncé, l'avant-dernier de sa carrière. Le réalisateur fait un mélange humour et violence qui marche très bien dans ce film de gangster américain. C'est un film qui m'a beaucoup plu du fait de sa narration non linéaire, c'est-à-dire plusieurs histoires entremêlées où les personnages des différentes histoires se rencontrent dans un même film, et son extravagance du fait que ce soit complètement absurde. Je trouve l'humour de bon goût et les scènes très bien faites pour apprécier et comprendre l'humour noir du réalisateur. Discutons maintenant de l'origine du titre Pulp Fiction. Il est tiré d'un type de divertissement très populaire dans la première moitié des années 1900, le Pulp Magazine, des revues connues pour leur violence graphique et leur dialogue mordant. Tarantino s'en est donc inspiré et a combiné ses idées pour la réalisation. D'ailleurs, ce film dont je vous parle depuis un moment déjà est considéré comme l'un des représentants principaux du cinéma postmoderne, que je traduirai pour une compréhension optimisée par « Pulp Fiction est un film culte ». Mais qu'en est-il de l'histoire ? On suit des personnages faisant partie de la pègre dans plusieurs histoires entremêlées, dont Vincent Vega, un personnage qui à chaque fois qu'il rentre dans une salle de bain, il lui arrive quelque chose. Notez bien ça, si vous regardez le film, ça le rendra encore plus comique. Ou bien l'histoire singulière du Pumpkin et Yolanda, deux énergumènes qui cambriolent un café. Plein de personnages, tous avec des singularités, gravitant autour de l'immense ville qu'est Los Angeles. Malgré cette narration particulière, le fil conducteur de l'histoire reste très bien géré et donne au film une identité qui, à en croire sa notoriété, marche très bien. Je vous conseille vivement ce film qui m'a beaucoup fait rire et même m'inspire quelquefois. La culture cinématographique est très importante pour moi, que ce soit pour mon plaisir ou mon inspiration. Alors à plus tard pour un nouveau sujet de cinéma.
Merci Suzanne de nous avoir partagé ton expérience cinématographique. Maintenant, une petite pause musicale, You Never Can Tell Me. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Anaïs, Ambre et Léna nous présentent la petite librairie à Sommières.
Nous allons vous présenter la petite librairie de Sommières. Notre classe participe au projet Jeunes en librairie. Nous avons eu la chance de rencontrer la gérante de la librairie, Laure. Nous lui avons posé quelques questions. Combien de personnes travaillent à la librairie ? Avez-vous du temps libre pour lire des livres à votre travail ? Et elle nous a répondu qu'il y avait deux personnes qui travaillaient à la librairie. Ensuite, elle nous a dit qu'elle n'avait pas de temps libre pour lire dans son commerce.
Elle nous a montré une vidéo sur le quotidien d'une libraire qui s'appelle « Bref, je suis libraire ». Nous vous la conseillons et elle est disponible sur Internet. Ce n'est pas le quotidien que l'on imagine. Ils se lèvent tôt, rangent des cartons remplis de livres, les comptent pour vérifier qu'ils sont tous là, les rangent par auteur, numéro, par collection et titre. Ils conseillent des personnes des fois pas très aimables. Ils accueillent parfois des auteurs, des bibliothécaires qui leur achètent des livres. Un conseiller vient pour leur présenter les nouveautés.
La librairie a évidemment des livres, des mangas, des BD, des romans. Il y a un coin papeterie. Le comptoir est fait en livres. La librairie est bien organisée dans l'ensemble. Nous vous conseillons vraiment d'aller à la petite librairie de Sommières. Après, nous sommes allés visiter le château de Sommières. Nous vous prévenons que les marches sont très raides. Nous avons terminé notre sortie en allant au cinéma Le Venise. Le film s'appelle « Interdit aux chiens et aux Italiens ». C'est un film d'animation. Ce film parle d'immigrés italiens qui viennent en France.
Ce film était très intéressant et il nous a beaucoup plu. En tout cas, nous vous conseillons fortement cette librairie.
Au revoir et à la prochaine émission.
Merci les filles, c'était super pour une première chronique. Maintenant, l'effet de masse de Maëlle.
s'il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, oui tu l'as déjà vu. Il partageait ton cœur dans les matins méchants. Tu riais de lui car il était différent. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui qui passe, mais son nom je sais plus. Qu'est-ce qu'on peut être idiot quand on est plus nombreux? Je l'avoue, le cœur gros, oui, j'ai ri avec eux. Aujourd'hui, c'est toujours la même histoire, dans la vie ou dans les bruits de couloir. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans toutes les cours d'école, c'est toujours l'effet de masse qui nous classe et qui nous cogne. Sur les écrans sous des masques, dans des regards qui rigolent, c'est toujours l'effet de masse qui nous casse et nous isole. Et on était plusieurs. Il faut en faire valoir pour se sentir meilleur. Il était dans ma classe, il vivait dans ta rue. C'était celui d'en face, on ne l'a plus jamais vu.
Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons mis cette musique. Car c'est Paolo qui parle maintenant du harcèlement et du suicide de Lucas, un adolescent.
Bonjour, point d'actualité du jour, je vais vous parler de Lucas, un ado qui s'est malheureusement suicidé après avoir subi de l'harcèlement homophobe à l'école. Je vais tout vous raconter avec les détails. Le procureur a annoncé le vendredi 27 janvier que 4 élèves du collège Louis-Armand de Golbey dans les Vosges allaient être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. Le suicide en question, c'est celui de Lucas, 13 ans, qui s'est malheureusement suicidé le 7 janvier 2023 après avoir subi l'harcèlement et de l'homophobie à l'école. La mort de l'adolescent a bouleversé certaines personnes et rappelé que l'homophobie est toujours présente dans les cours de récré. Depuis la loi de mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit. Pour les majeurs, la peine encourue est de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende quand les faits ont conduit les victimes à se suicider ou à tenter de se suicider. Les mineurs, eux, encourent la moitié de cette peine, soit 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En 2004, la loi instaurant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité mentionne l'homophobie parmi les motifs de discrimination et pénalise les propos publics incitant à la haine, diffamatoires ou injurieux en raison de l'orientation sexuelle. J'ai choisi ce sujet car j'ai été très touché par cette histoire. Le harcèlement et l'homophobie sont très graves. Et ça peut être puni par la loi quand je viens de le dire. C'est toujours présent de nos jours. Au collège, on nous parle beaucoup du harcèlement, ce que je trouve très important. Par exemple, en anglais, nous faisons des affiches qui ont pour titre « No bullying », qui veut dire en français « non » ou « harcèlement ». On en a aussi beaucoup parlé en histoire-géographie. Dans le cadre du programme phare, des élèves de 4e et de 3e ont réalisé une vidéo qui s'appelle Mélina. La vidéo a été proposée pour gagner le prix du concours Non au harcèlement. Je viens de voir la vidéo, je la trouve très émouvante avec la musique. Et j'ai eu plein de frissons tellement c'était bouleversant. À certains moments de la vidéo, j'ai failli pleurer. Il existe plusieurs livres qui parlent de l'harcèlement. Le manga A Silent Voice, très lu par les élèves du collège. Je me défends du harcèlement de Emmanuel Piquet. Marion, 13 ans, pour toujours de Nora Fraise. Et encore plein d'autres que vous pouvez trouver à la bibliothèque. Si vous avez vécu ou si vous vivez n'importe quel type d'harcèlement, n'hésitez pas à en parler aux adultes ou appeler le 3020 qui est le numéro national de l'harcèlement ou encore aller voir un psychologue. Ou si vous le voulez, vous pouvez appeler d'autres numéros encore. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Alors merci de m'avoir écouté. Courage à ceux qui subissent du harcèlement. Ça va aller, on peut toujours trouver une solution. À la prochaine, bye bye.
Merci Paolo, c'était bien que tu nous donnes ton avis sur le harcèlement et que tu nous y sensibilises. Pour finir, Athanaïs nous présente sa passion du handball et la gardienne de France, Cléopâtre Darleux.
Salut tout le monde, c'est Athanaïs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une joueuse de handball, Cléopâtre Darleux. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet. Le handball a une grande place dans ma vie. J'ai commencé à l'âge de 4 ans au club de Sommières. Maintenant, j'ai 12 ans et je n'ai pas quitté le club. J'y vais 2 à 3 fois par semaine. J'ai un match tous les week-ends. Moi et mon équipe avons gagné le championnat départemental. Et sommes inscrites à la Coupe du Gard. Sur le terrain, j'occupe tous les postes. Pour rappel, il en existe 5. Ailier, arrière, demi-centre, pivot et gardienne de but. Celui que je joue le plus souvent, c'est gardienne. C'est pour cela que j'ai choisi Cléopâtre Darleux, car c'est une des plus grandes gardiennes de France, c'est mon modèle. À présent, je vais vous parler de son parcours. Elle est née le 1er juillet 1989. Aujourd'hui, elle a 33 ans. Et elle a une fille qui s'appelle Olympe, qui a 4 ans. Originaire d'Alsace, Cléopâtre découvre le handball à 8 ans en suivant ses sœurs dans le club de la ville et se passionne pour ce sport. La jeune joueuse est détectée dans les équipes du comité départemental où elle joue avec sa sœur. Elle intègre le pôle espoir en 2003 à l'âge de 14 ans. Elle intègre son premier club pro en 2005 à Besançon. À 18 ans, en 2007, Cléopâtre Darleux signe son premier contrat professionnel dans le club phare de la capitale, le Easy des Boulineaux Handball. Dès l'année suivante, la gardienne intègre l'équipe de France. Cléopâtre devient ainsi, dès 2009, à tout juste 20 ans, vice-championne du monde. En 2022, elle est désignée meilleure gardienne de l'Euro avec près de 40% d'arrêts sur la compétition. En 2023, elle est placée en arrêt maladie car elle a arrêté trop de ballons avec sa tête, ce qui lui a causé une commotion cérébrale. Pour conséquence, elle est arrêtée 3 mois. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles chroniques toujours plus intéressantes du sport français.
Merci pour ton super sujet, Athénaïs. Nous nous quittons malheureusement sur ce dernier sujet. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin.
Cette année, certains élèves sont partis car ils ne se plaisaient plus à l'atelier radio. Mais d'autres sont aussi arrivés. Nous remercions encore et toujours Madame Rouvière, la professeure documentaliste,
Laurent, AESH, et Fabien, l'animateur intervenant dans notre collège. Sans oublier Augustin qui s'est chargé de la technique pour cette émission. On espère qu'elle vous aura plu, on peut donc se dire au revoir et à la prochaine.
A plus et à la prochaine émission.
Le collège de Kouta, des interviews, des actus,
de la musique,
des sciences,
des reportages.
Vous écoutez On te choque.